tout de suite le journal, c'est avec vous Adrien Taufollet. Rebonsoir Adrien.
Rebonsoir. Laurent Wauquiez dégomme, vent-il disperse encore une fois. De nouveaux extraits de son cours à l'école de commerce sont dévoilés ce soir. Alain Juppé, Valérie Pécresse, Justin Trudeau, toute la République en marche, les syndicats de patrons comme de salariés, tous subissent les saillies du patron des Républicains qui risque de passer les prochains jours à s'excuser à nouveau. Dans l'actualité également, les projets de réforme du gouvernement, celui de la SNCF en consultation et le plan Loup dévoilé aujourd'hui et dans tous les cas, des insatisfaits de tous les côtés. Une djihadiste française expulsée d'Irak vers la France, condamnée à 7 mois de prison pour son appartenance à Daesh. L'armée au Brésil qui s'apprête à prendre le contrôle de Rio pour y combattre les narcotrafiquants. Et puis du patinage artistique tout à l'heure au JO, une potentielle revanche pour la française Gabriella Papadakis qui se fera en sorte de ne pas perdre sa robe. Et puis la météo ce soir sera présentée par Sébastien Léas.
France Inter.
L'épisode 2 de ce qu'on peut qualifier maintenant de Wauquiez Gate, l'émission quotidien publie ce soir de nouveaux extraits du cours donné la semaine dernière par le patron de Les Républicains en école de commerce, Laurent Wauquiez. Il taille un costume à Alain Juppé, Valérie Pécresse et Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Il attaque aussi frontalement les syndicats dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il préside, la CGT, mais surtout la CPME. La seule chose qu'ils veulent, dit-il, c'est encaisser de l'argent. La CPME qui ce soir n'a pas souhaité réagir à, je cite, des propos de comptoir, mais l'attaque la plus forte de Laurent Wauquiez, c'est celle contre La République En Marche, Estelle Schmitt.
Laurent Wauquiez tire tous azimuts. Il s'en prend au président de la République. Pour lui, avec Emmanuel Macron à l'Élysée, la France n'est plus une démocratie et l'équilibre des pouvoirs, une illusion.
Vous croyez qu'un parlementaire a le moindre pouvoir aujourd'hui? Vous avez vu les guignols d'En Marche, là? Ils sont tous avec le petit doigt sur la couture. Ils doivent tous voter la même chose. Quand ils osent apporter la moindre dissonance, ils se font taper dessus avec une matraque. Donc il y a une dictature totale en France.
Sur Gérald Darmanin, dont il a demandé la démission, Laurent Wauquiez reconnaît qu'il a été en minorité dans son parti. Un camp qu'il n'hésite pas à égratigner, notamment ceux qui s'opposent à lui. Valérie Pécresse, le nombre de conneries qu'elle peut faire, juge-t-il. Alain Juppé, maire de Bordeaux, une personnalité éminemment respectable selon lui, mais...
Il a totalement cramé la caisse. Il a fait des miracles, hein. Bordeaux était très bien géré, mais il a fait exploser les impôts, la dépense publique, et il a fait exploser l'endettement. Moi, ma conviction, c'est que quand vous faites ça, vous n'avez à l'arrivée plus aucune forme de crédit.
Laurent Wauquiez sans filtre et qui sait que ses paroles privées peuvent être rendues publiques.
La caractéristique quand on est un élu, c'est que tout ce que vous dites, à tout moment, peut être utilisé et déformé contre vous. Dans ma vie politique, dès que j'ai plus de 2 personnes autour de moi, il faut toujours que je me dise que tout ce que je dis va sortir.
Alors pourquoi Laurent Wauquiez s'est-il lâché devant des étudiants? Chez les LR, certains parlent d'un acte délibéré, d'autres d'une vraie naïveté.
Estelle Schmitt, merci. Les réactions à ces nouveaux extraits n'ont pas tardé. Pour le patron de La République En Marche, Christophe Castaner, c'est indigne du président de cette famille politique. Loin des attaques et des petites phrases et des petites guerres en politique, du concret aujourd'hui. Parmi les grands projets de réforme dans les tuyaux du gouvernement, un dossier particulièrement explosif, l'avenir de la SNCF, 4 jours après la remise du rapport Spinetta, vécu par les cheminots comme une attaque contre le service public ferroviaire. Le gouvernement a lancé aujourd'hui les consultations, la direction reçue par Édouard Philippe, les syndicats par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. UNSA, CFDT, Sudrail et CGT Cheminots étaient présents, Raphaël Ebenstein.
Eh bien, du côté du ministère, on voulait pouvoir discuter franchement de tous les sujets, écouter ce que chacun attendait d'une réforme de la SNCF, mais aucune annonce, puisque c'est Édouard Philippe qui détaillera le calendrier lundi prochain. Les syndicats sont visiblement restés sur leur faim, mais si la CGT a d'ores et déjà appelé les cheminots à la grève le 22 mars, les autres organisations se veulent plus prudentes, à l'image de Didier Aubert, secrétaire général de la CGT cheminots, qui se prononcera jeudi, tant pis s'il n'y a pas d'unité.
L'unité, c'est jamais qu'un moyen d'action. C'est pas une fin en soi. Et l'intérêt pour nous, c'est l'intérêt du ferroviaire et l'intérêt des cheminots.
Un discours mesuré qui n'est pas celui de Sudrail, même si les adhérentes se prononceront que mercredi. Bruno Poncet, l'un de ses secrétaires fédéraux, mise déjà sur un mouvement sans doute massif au sein de la SNCF.
L'unité syndicale, on va la faire. Elle va se rejoindre avec nos collègues des AutoS dans la semaine, plusieurs fois. On va discuter, mais effectivement, il faut une plateforme unitaire, mais sur les mêmes revendications, afin d'avoir une réponse soudée. Le rapport de force ne se fera réellement que si on est soudé entre syndicats.
Reste que la plupart des organisations syndicales de la SNCF ont quand même peu apprécié que ce soit Philippe Martinez en personne, le secrétaire général de la CGT, qui annonce lui-même la date de la grève des cheminots, le 22 mars.
Après avoir menacé la semaine dernière de ne plus soutenir la loi qui réforme l'accès à l'université, Lafage s'est finalement dite rassurée à l'issue d'une rencontre avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal. Le premier syndicat étudiant avait vivement contesté une phrase du texte de loi qui laissait entendre que le choix d'orientation des étudiants serait fait en fonction des capacités d'accueil des établissements. Nos craintes ont été entendues, mais nous resterons extrêmement vigilants, a déclaré le président de la FAGE après son rendez-vous. Dernier gros dossier, le très sensible plan loup, présenté aujourd'hui par Nicolas Hulot et son confrère à l'agriculture, Stéphane Travert. Des mesures qui doivent régir l'équilibre entre la préservation de l'espèce et la protection des éleveurs, avec notamment un plafond d'abattage de 40 loups en 2018 et une indemnisation des propriétaires de troupeaux sous condition, des annonces qui ne satisfont ni les éleveurs, ni les organisations de défense des animaux, qui dénoncent tous un manque de courage politique. Rosalie Lafarge.
Oui, avec 10 000 brebis attaquées en 2016, les éleveurs voulaient plus de souplesse. Claude Font de la Fédération nationale ovine regrette par exemple qu'on pose des conditions aux tirs de défense simples.
C'est soumis à l'autorisation du préfet. Il faut être réactif. Quand un loup s'approche du troupeau, on ne va pas demander une autorisation à qui que ce soit. L'objectif, ce n'est pas de tuer le loup, c'est avant tout de l'éduquer. Il faut que le loup assimile le troupeau à une menace sur son existence.
Sauf que pour les associations de défense du loup comme Férus, il faut arrêter la politique du fusil et investir dans les chiens, les clôtures ou le gardiennage. Jean-François Darmstadter est le président de Férus.
À partir du moment où un troupeau est bien protégé, il n'y a pas théoriquement de raison de continuer à tuer des loups. Les éleveurs sont tout à fait capables de se protéger. Ceux qui font parler d'eux, c'est ceux qui refusent de mettre en œuvre les mesures de protection.
Et ils n'auront de toute façon plus trop le choix. En cas d'attaque, les éleveurs ne seront indemnisés que s'ils ont mis en place des mesures de protection. Mais Jean-David Abel, le vice-président de France Nature Environnement, aimerait qu'on aille plus loin, qu'on réfléchisse autrement.
Il faut travailler à des expérimentations d'évolution des pratiques pastorales en présence du loup. Tant que l'État n'aura pas la vision, la compréhension de qu'est-ce que ça veut dire vivre avec des prédateurs au XXIe siècle, on aura des difficultés à aller de l'avant.
Et avec ce plan, le gouvernement espère atteindre les 500 loups en 2023 contre 360 aujourd'hui, mais certaines associations envisagent déjà des actions devant le Conseil d'État.
Tariq Ramadan ne sortira probablement pas de prison. L'islamologue suisse est mis en examen pour viol et écroué à la prison de Fleury-Mérogis. Il avait fait une demande de remise en liberté pour raison de santé. Il souffrirait entre autres choses d'une sclérose en plaques. Attestation médicale à l'appui, mais d'après l'expertise médicale ordonnée par la justice rendue publique aujourd'hui, l'état de santé de Tariq Ramadan est compatible avec son maintien en détention. Son emprisonnement ne crée aucun risque d'engager à court ou long terme son pronostic vital, précise le document. La justice rendra sa décision ce jeudi. Une nouvelle condamnation d'une djihadiste occidentale en Irak. 6 ans de prison pour une Allemande de 17 ans condamnée par un tribunal pour appartenance au groupe État islamique et entrée illégale dans le pays. La jeune fille avait disparu à l'été 2016 après une conversion à l'islam et une radicalisation par Internet. C'est la deuxième citoyenne allemande condamnée en Irak. Le 21 janvier dernier, la Cour pénale centrale de Bagdad avait condamné à mort une autre reconnue coupable de soutien logistique et d'aide à une organisation terroriste pour commettre des crimes. Autre djihadiste en Irak, une Française de 27 ans, elle a déjà été condamnée à 7 mois de prison par la justice irakienne. Ça tombe bien, c'est ce que voulait le gouvernement, que les djihadistes français soient jugés sur place quand les conditions le permettent. Sauf que maintenant, les autorités irakiennes s'apprêtent à l'expulser, Sarah Guibaudeau.
Et en fait, elle reste en rétention jusqu'à son expulsion. Cette Française qui se prénomme Mélina n'a été condamnée que pour être entrée en Irak de manière illégale, pas pour terrorisme, contrairement à d'autres femmes de djihadistes qui ont parfois été condamnées à mort ou à la prison à vie. Mélina a visiblement convaincu le tribunal de Bagdad qu'elle n'était qu'une femme au foyer. Lors de l'audience, elle a aussi présenté son mari comme un cuisinier chez Daesh. Il a pourtant été condamné à 1 an de prison ferme dans le dossier Forzan Alitsa. Il reconnaissait alors un goût pour les armes dont plusieurs avaient été saisies chez lui. Cet homme aurait trouvé la mort il y a 1 an dans un bombardement à Mossoul. C'est à la fin du siège de la ville l'été dernier que Mélina a été capturée, affamée avec ses 4 enfants. Les 3 aînés ont été rapatriés en France avant Noël et confiés à une famille d'accueil. En France, ce qui attend la jeune femme, c'est d'abord une garde à vue et une éventuelle mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Elle a en effet rejoint le groupe État islamique en octobre 2015, donc après le début de la vague d'attentats en France.
Sarah Guibaudeau. En Syrie, Bachar el-Assad continue de mettre la pression sur l'enclave rebelle et djihadiste de la Ghouta orientale. Son aviation a violemment bombardé la région. Aujourd'hui, au moins 77 civils, dont 20 enfants, ont été tués d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 300 personnes ont également été blessées dans les bombardements commandement de l'artillerie. Malgré des pourparlers en cours, le régime se tient prêt à lancer une offensive terrestre. Des renforts ont été envoyés autour de la zone tout le week-end. Au Brésil, les moins de 33 ans ne peuvent pas connaître la symbolique de ce qui va arriver ce soir. Le Congrès brésilien doit voter, sur proposition du président Michel Temer, pour une intervention militaire à Rio. L'armée doit prendre le contrôle pour lutter contre les cartels de drogue. Vendredi déjà, le secrétaire d'État à Rio, chargé de la sécurité, a démissionné pour laisser sa place à un général du jamais vu depuis la fin de la dictature en 1985. C'est dire si cette décision divise le pays. On est plutôt favorable à droite et très opposé à gauche. À Rio de Janeiro, la correspondance d'Anne Vigna.
C'est une décision inédite au Brésil depuis la fin de la dictature militaire en 1988. L'armée prend donc le contrôle de toutes les polices de Rio jusqu'à la fin de l'année et ses troupes seront également présentes en renfort. Le président Michel Temer a justifié le recours à cette mesure exceptionnelle prévue dans la Constitution face à l'augmentation de la violence à Rio avec plus de 6700 morts violentes l'an dernier. Mais 9 autres États du Brésil ont des statistiques encore pires que celles de Rio. La décision du président est apparue donc très liée à la campagne présidentielle qui commence. L'extrême droite surfe avec succès sur le thème de l'insécurité. En allant sur ce terrain, le président chercherait à lui couper l'herbe sous le pied. Mais il s'agit d'un terrain dangereux et les spécialistes de la sécurité rappellent que l'armée n'est pas préparée pour assumer des tâches de police et encore moins pour commander des policiers. Rio de Janeiro, Anne Vigna, France Inter.
Des excuses en bonne et due forme. Une délégation d'Oxfam s'est rendue en personne en Haïti pour présenter des excuses et présenter les résultats de leur enquête interne. Nous sommes venus exprimer notre honte et nos excuses au gouvernement haïtien et à la population pour ce qu'il s'est passé, a déclaré le directeur régional de l'organisation britannique. Depuis la semaine dernière, Oxfam est englué dans un scandale impliquant des employés accusés notamment de harcèlement, d'intimidation et d'avoir eu recours à des prostituées. On part au JO de Corée. Ils vont patiner à 4h56 du matin cette nuit pour offrir à la France une nouvelle médaille d'or. Deuxième à l'issue du programme court après un incident de robe pour Gabriela Papadakis qui a bien failli se retrouver nue sur la glace ce matin. Les deux patineurs auvergnats vont tenter de rattraper leur retard sur les champions olympiques 2010 et vice-champions olympiques. Tout reste possible. Les doubles champions du monde français ont fait de ce programme libre leur jardin. Fabrice Rigobert.
Cette sonate au clair de lune leur a permis d'améliorer plusieurs fois le record mondial du nombre de points dans un programme libre. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron sont désormais sur leur terrain d'expression.
Je pense qu'en partant, le libre était quelque chose de plus naturel pour nous. C'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus profond, donc c'est vraiment pas du tout la même énergie.
Ils n'ont pas l'explosivité ni la qualité des portées de leurs adversaires et compagnons d'entraînement canadiens en tête du classement. Les Français de 22 et 23 ans ont d'autres atouts pour Annick Dumont, consultante de France Télévisions.
En vitesse de patinage, la qualité de glisse et de fluidité qu'ils ont, cette osmose et ce charisme, ils sont magiques. Ils n'ont pas besoin de jouer avec le public. En fait, ils jouent avec la danse sur glace. Sur ces points-là, ils seront devant. Donc le libre est quand même une épreuve plus pour les Français que pour les Canadiens.
Ce point 74 de retard n'a rien de rédhibitoire. Didier Gayaguet, président de la Fédération française des sports de glace, en est convaincu.
Je pense que nous avons de très loin le meilleur programme libre. On garde la confiance parce qu'on pense qu'on est les meilleurs.
La robe de Gabriela sera cette nuit examinée sous toutes ses coutures pour éviter toute mauvaise surprise. Les Français tenteront de convaincre les juges, peut-être attendris par leur mésaventure, quelques minutes avant les Canadiens. Peiyong Chang, Fabrice Rigobert, France Inter.
Emmanuel Macron l'avait annoncé lors des obsèques nationales en juillet dernier. Simone Veil entrera bien au Panthéon. L'Élysée l'officialise ce soir en accord avec la famille. L'ancienne académicienne et ministre entrera dans l'édifice le 1er juillet prochain, soit un an après son décès à l'âge de 89 ans. Elle y reposera auprès de son mari Antoine Veil. Elle est la cinquième femme à intégrer à la nécropole.